conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quelle plante pour demain ? Nous savons tous qu'en matière de pratiques agricoles, les choses ne sauraient demeurer en l'état pour au moins deux raisons. D'une part, parce que le changement climatique a des effets sur la vie des plantes et sur celle des cultures. D'autre part, parce qu'il est devenu obligatoire d'utiliser moins de pesticides et moins d'engrais. Il convient donc de réfléchir, en tenant compte de ce que nous savons et aussi de ce que les chercheurs découvrent, de réfléchir au type de plantes qui permettront de nourrir l'humanité de demain. Mais selon quels critères les choisir et comment les faire advenir? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir François Parcy. Bonjour.
Bonjour Étienne.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, chercheur au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale de l'université de Grenoble-Alpes, et vous venez de publier un livre passionnant qui s'intitule « Les clés du champ » paru chez Humaine Science il y a quelques semaines. Un livre pétri de culture au singulier et de culture au pluriel, si j'ose dire. Et en exergue de ce livre, vous citez quelques vers de Baudelaire, un poème qui s'intitule « L'ennemi », je vais les lire rapidement. « Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui leur ferait vigueur ?» Comment est-ce que vous comprenez ces phrases, François Parcy ?
Quand j'ai lu ces phrases, j'ai cru qu'elles avaient été écrites pour ce livre. Je trouve que c'est une des beautés de la poésie, c'est cette sorte d'universalité. Je pense que Baudelaire, il les a pas du tout écrites pour le livre, mais moi, quand je les comprends, déjà, ces fleurs nouvelles que je rêve, quand on parle d'agriculture, on pense pas forcément aux fleurs, et pourtant, tout ce que nous mangeons, ce sont des plantes à fleurs, et il existe sur Terre des tas d'autres plantes qui ne sont pas des plantes à fleurs, des conifères, des mousses, des fougères, mais ce que nous mangeons, ce sont des plantes à fleurs. Donc, Baudelaire dit, c'est ces fleurs nouvelles que je rêve.
Il dit pas dont je rêve, mais que je rêve.
Ben oui, alors, quelle est la subtile nuance? Peut-être que c'est ce qui est...
Mais qu'il voit en rêve, mais il n'a pas forcément envie qu'elles adviennent, mais il parle quand même du mystique aliment qui leur ferait vigueur.
Ah oui.
Alors, le mot vigueur, il apparaît plusieurs fois dans votre livre.
Ah oui. La vigueur des plantes cultivées, et en particulier la vigueur hybride, hein, les fameuses semences hybrides F1, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui en agriculture, qui est aussi parfois décrié, et c'est aussi quelque chose qu'on tente de reproduire et de rendre éternel, on en parlera peut-être, hein, de la vigueur hybride éternelle.
Plutôt pérenne, non ?
Alors, pérenne, non, il y a les deux. Il y a le fait de transformer des plantes annuelles en des plantes vivaces ou pérennes, ça c'est une chose. Et il y a le fait aussi d'avoir une vigueur hybride qui puisse se transmettre d'une génération à l'autre. Normalement, le propre de la vigueur hybride, c'est de marcher très bien en première génération, quand on a croisé un parent mâle et un parent femelle, on les a croisés, on a une première génération qui est extraordinaire, qui est robuste, qui est productive, mais ça se perd dans la génération d'après. Et aujourd'hui, il est possible de rendre cette vigueur hybride éternelle. Et quand j'ai lu ces vers de Baudelaire, je me suis dit, mais oh, il avait tout deviné.
Alors, je vous avais déjà reçu, François Parcy, en 2018, si ma mémoire est bonne, pour parler d'un précédent livre dans lequel vous racontiez comment, avec dans votre équipe, vous aviez résolu le problème de l'apparition des plantes à fleurs. Et aujourd'hui, on va parler donc de l'avenir des plantes. Et avant de parler de ce sujet étape par étape, parce que c'est, en vous lisant, j'ai compris que c'est un sujet extrêmement complexe, passionnant mais complexe, je voulais vous demander si vous aviez réfléchi à l'anagramme de l'avenir des plantes. Avenir des plantes. Ça donne quoi en anagramme ?
Je vous écoute.
Alors, c'est mon ami Olivier Garcia qui l'a trouvé. Avenir des plantes, ça donne « il n'est pas à vendre ». Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est un conseil plein de sagesse, à votre avis ?
Ça me parle forcément parce que, justement, en ce moment, il se discute au Parlement européen la façon de protéger ces éventuelles nouvelles variétés végétales. Est-ce qu'on doit les breveter ? Est-ce qu'on doit simplement des certificats d'obtention végétale ? Et en fait, le fait même qu'on touche au vivant et qu'on puisse vendre des semences, vendre des produits de l'agriculture, c'est quelque chose de relativement spécial. Et donc, il est important de réfléchir du côté technique quelles seront ces nouvelles plantes, mais il est important aussi de réfléchir à la façon dont elles seront vendues, commercialisées, brevetées éventuellement ou non.
Donc ça vous fait un slogan, l'avenir des plantes n'est pas à vendre. Voilà. Une première question, votre laboratoire, il ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Est-ce qu'on observe ? Est-ce qu'on expérimente ? Est-ce qu'on calcule ?
On y fait tout ça à la fois. Et vraiment, la biologie des plantes d'aujourd'hui, c'est de l'observation, c'est aussi beaucoup de calcul. Donc nous, on s'intéresse à la formation des fleurs et parfois des choux-fleurs. Et on essaie de comprendre comment d'un petit groupe de cellules indifférenciées, un petit tas, une pointe de tige, on voit apparaître des structures aussi belles, aussi colorées, aussi diversifiées que les fleurs. Et donc là, pour ça, on utilise ce qu'on appelle la génétique moléculaire. On essaie de relier les gènes à leur fonction dans le tissu. On est à Grenoble, donc on profite pleinement du synchrotron, de la biologie structurale. Donc on voit des protéines en action, on voit des protéines s'accrocher sur l'ADN.
Donc le synchrotron qui produit de la lumière, des rayons X.
Oui, et qui permet de
créer des mutations.
Ah non, le synchrotron tel qu'il est utilisé à Grenoble, c'est plutôt pour faire des figures de diffraction sur des cristaux de protéines, ce qui va après nous donner la forme des protéines. On sait exactement à quoi elles ressemblent, comment elles s'accrochent. Donc on fait ça, mais on fait aussi beaucoup de calculs. Et en fait, mon équipe de recherche, qui s'appelle Flore, hein, régulateur floro, Flora régulateur, en fait, cette équipe de recherche, elle utilise aussi aujourd'hui beaucoup de bioinformatique, donc des calculs sur des gigas, des téras de données, pour tenter de comprendre qu'est-ce qui se passe au cœur des cellules, comment la plante exploite son génome pour mettre en route des tas d'activités différentes selon les tissus.
Bon, il y a une très grande diversité des plantes, mais est-ce qu'on peut trouver une définition des plantes qui les unifie? Comment ça marche une plante? Est-ce qu'il y a une définition simple de ce qu'est une plante?
C'est jamais simple de définir, mais je dirais le point commun à toutes les plantes, c'est la capacité à se nourrir directement du soleil. En gros, avec quelques minéraux puisés dans le sol et l'énergie solaire, elle va fabriquer des molécules riches en énergie, des sucres, de l'amidon, des lipides, des protéines. Et ces molécules-là sont à la base de quasiment toute la chaîne alimentaire, tout le vivant sur Terre. À l'origine, il est là parce que des êtres vivants, des plantes et des algues, ont réussi à capturer l'énergie du soleil et à la redistribuer à tout le reste du règne vivant.
Georges Canguilhem, le philosophe que vous connaissez sûrement, disait « la plante vit dans la nourriture ». Est-ce que vous êtes d'accord et comment est-ce que vous comprenez cette phrase, si vous êtes d'accord?
La plante, elle a la capacité à la fois de fabriquer la nourriture et d'être la nourriture elle-même. Elle est vraiment au cœur. Et donc, c'est assez formidable d'imaginer que ces êtres vivants, ils se fabriquent simplement en attrapant des photons de lumière et quelques ions dans le sol, et qu'ensuite, c'est eux qui vont se sacrifier un petit peu hein, pour tout le reste de la vie. Hein.
Alors, je l'ai dit en introduction, François Parsi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant votre livre, je ne connais pas du tout ces sujets. Mais notamment, j'ai appris dès les premières pages de votre livre qu'il fut un temps où on pouvait mourir de la pêche. La pêche, c'est pas la pêche à la ligne, hein, c'est le fruit, la pêche. Alors, comment est-ce qu'on pouvait mourir de la pêche?
On pouvait mourir plus précisément des noyaux de pêche, hein, parce que les noyaux de pêche, comme ceux des abricots, comme ceux de l'amande, et des plantes de la même famille, ils possèdent à l'intérieur un composé qui s'appelle l'amygdaline. Et effectivement, on retrouve sur des urnes funéraires de prêtres thébains la mention mort par la pêche, parce qu'en fait, ils avaient été empoisonnés avec, des noyaux de pêche qui avaient été écrasés.
Mais d'ailleurs, on les a empoisonnés.
Je sais plus ce qu'ils avaient fait de mal, ces prêtres à Thèbes, mais on les a empoisonnés. Et en fait, l'amygdaline, c'est une molécule qui est fabriqué très simplement à partir d'un acide aminé. Donc, c'est quelque chose on trouve ça dans tous les organismes vivants, c'est inoffensif. Et en 4 réactions chimiques, on voit apparaître une molécule létale. Une molécule vraiment avec ces triple liaisons N, qui est le cyanure. Donc, en fait, cyanure, voilà, on peut tuer des gens avec des
mais on peut plus. Mais on peut plus.
Alors, on peut plus.
Voilà. Donc, votre grand sujet, c'est la domestication des plantes. Comment des plantes qui étaient à l'origine toxiques on finit par ne plus l'être. Et vous donnez un exemple qui m'a passionné, qui est celui des amandes. Les amandes qui étaient toxiques, justement parce qu'elles contiennent cette amygdaline dont vous venez de parler. Alors la question est, comment est-ce qu'elles ont cessé de le devenir? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'elles ne soient plus toxiques? Et j'ai découvert aussi en vous lisant qu'on a compris ce qui s'est passé que tout récemment, en 2019.
Exactement. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre...
Oui.
Effectivement, les amandes, c'est celles qui produisent, parmi les plantes de la famille des prunus, et les noyaux d'amandes, c'est celles qui, à l'origine, avaient le plus d'amygdaline. Donc, c'est eux qui étaient le plus riches en ce composé létal. Et au cours de la domestication, les humains ont sélectionné des amandiers moins toxiques avec un taux réduit en amygdaline. Comment ils ont fait? En fait, on sait aujourd'hui depuis 2019 que c'est une mutation qui est allée réduire l'efficacité de la plante à synthétiser l'amygdaline. Et que cette mutation, en fait, elle touche un gène qui va en fait provoquer une accumulation d'enzymes plus basses. Donc vous savez, pour fabriquer un composé, c'est des réactions chimiques, il y a des enzymes. Eh bien, chez le mutant doux de l'amandier, il y a deux enzymes dont le niveau est plus bas parce que une mutation dans un gène fait baisser le niveau de ces enzymes. Mais évidemment, les gens qui ont sélectionné des amandes douces il y a quelques milliers d'années, ils n'en avaient aucune idée. Ils ont peut-être observé des arbres sur lesquels il y avait plus d'oiseaux, plus de rongeurs. Ils ont peut-être goûté eux-mêmes des amandes, ils se sont rendus compte qu'elles étaient un peu moins amères, qu'elles leur faisaient moins mal au ventre. Parce qu'il fallait pas, voilà, on mourait pas après un noyau, on mourait après une grosse poignée.
Mais alors, est-ce qu'ils n'ont pas un peu joué la roulette russe ?
Bien sûr, ils ont joué à la roulette russe, bien sûr. Surtout que la génétique de la non-toxicité de l'amandier, elle est quand même assez complexe. Et on peut avoir un arbre qui est entièrement doux, qui va donner ensuite des amandes qui sont de nouveau toxiques, par exemple, dans la descendance, dans les générations suivantes. Donc il y a eu une étape où il a fallu fixer cette douceur, entre guillemets, de l'amande. Et ça, ça a pris du temps. Mais à l'époque, je pense que les ressources en nourriture, elles étaient moindres. Et que les gens, voilà, ils faisaient des essais et erreurs. Il y a peut-être eu des morts, hein. Mais au bout du compte, on a aujourd'hui des champs d'amandiers entièrement doux.
Alors vous expliquez tout cela en prenant, ou en inventant plutôt une sorte d'analogie qui est une usine de montage de vélo. En quoi ce qui se passe dans une usine de montage de vélo permet d'expliquer ce que vous venez de raconter rapidement?
Alors ça, c'est
ça veut dire que c'est en lisant cette analogie que j'ai compris le chapitre, que je l'ai relu. Et que maintenant,
je suis ravi que l'analogie ait été utile. Alors, j'ai pris l'exemple du vélo parce que j'adore le vélo. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'évolution des êtres vivants, il y a une catégorie de gènes qui est extrêmement importante. Leur nom scientifique, c'est les facteurs de transcription. Et en fait, ces gènes, ils font rien en particulier, ils orchestrent. C'est-à-dire qu'ils font travailler les autres. Ils vont décider du niveau d'activité des autres gènes. Et là, je parlais tout à l'heure des enzymes qui fabriquent l'amygdaline. Eh bien, les deux premières enzymes, elles sont contrôlées par un facteur comme ça qui contrôle leur niveau. Et donc, je prenais l'exemple, si on avait une chaîne de montage de vélo, avec des gens qui assemblent la roue et le cadre, par exemple, eh bien, on peut avoir une mutation dans la personne qui assemble, c'est-à-dire qu'elle s'est cassé le bras, ou cassé le pied, elle peut plus assembler. Et ça, ça expliquera aussi qu'il y ait moins de vélos qui sortent de la chaîne. Mais on peut avoir un problème chez le recruteur, qui va décider du niveau des gens, enfin, du nombre de gens qui assemblent, et ça fera le même effet. À la fin, il y aura moins de montage, et on aura donc moins de vélos qui sortent. Et donc, dans l'évolution, cette catégorie de gènes qui s'appelle les facteurs de transcription, elle est extrêmement importante. Elle est très importante dans l'évolution des êtres vivants, hein, des mammifères, des plantes, etc. Mais comme la domestication, c'est une forme particulière d'évolution, ces mêmes facteurs se retrouvent au cœur de la majorité des processus de domestication. On considère qu'il y a entre la moitié et les trois quarts des événements de domestication qui vont toucher ce type de gène ou la façon dont ils s'accrochent à l'ADN.
Mais alors pourquoi ce qui se passe dans les champs, François Parcy, pourquoi ce qui se passe dans les champs ne se passe pas dans la nature? Qu'est-ce que les champs permettent, que la nature ne peut pas faire toute seule, sans l'aide des humains, en quelque sorte? Et pourquoi ce qui se passe dans les champs ne se trouve pas dans la nature? Pourquoi il n'y a pas de maïs dans la nature, par exemple?
Alors, dans les champs et dans la nature, les plantes vivent, les plantes ont des mutations naturelles dans leur génome, etc. La grande différence, c'est la pression de sélection. Pression de sélection naturelle. Les plantes qui ont le plus de facilité à produire une descendance vont survivre, c'est celles qu'on a autour de nous aujourd'hui. Dans le champ, il y a la main humaine qui change tout. Et donc, une plante qui a un inconvénient dans la nature, elle aura peut-être un avantage dans le champ. Prenons par exemple les céréales et les grains de céréales, les graines qui restent accrochées à l'épi. Dans la nature, des graines qui resteraient accrochées à l'épi, ça serait pas du tout avantageux. Un maïs avec des grains tout nus, tous accrochés à l'épi, il va pas se disséminer, il va être offert aux prédateurs, donc il a aucune chance de survie. À l'origine, la plante ancêtre du maïs, qui s'appelle la théosinte, elle avait des grains qui se détachaient et qui étaient enfermés dans une coque solide. Donc on voit que ce qui a plu aux êtres humains et ce qui a été énormément propagé par les êtres humains de façon artificielle dans un champ, ce sont des caractéristiques qui, dans la nature, ne confèrent absolument aucun avantage. Donc en fait, on a changé le milieu, on a changé la nature de la pression de sélection, et donc la nature s'est dirigée vers des endroits différents.
Si je comprends bien, on a changé les espèces en question pour les adapter à un milieu qui n'est pas naturel.
Exactement.
À savoir le champ.
Mais oui, le champ, souvent je fais la comparaison avec la domestication animale, avec l'exemple du loup.
Vous avez des phrases terribles.
Bah oui.
Moi j'ai appris que, attendez, que le maïs, vous l'écrivez quelque part, le maïs est l'équivalent végétal du caniche.
Mais oui, parce que les chiens, tous les chiens qu'on a, on a les gros Doberman, mais on a aussi les chihuahuas ou des chiens qui sont beaucoup plus fragiles, ils descendent du loup. Pourquoi ils survivent? ils sont pas tellement adaptés à la nature. Si on les relâchait dans la nature, ça serait une catastrophe. Ils survivent parce qu'on en prend soin dans le salon de nos grands-mères. On lui donne à manger, on lui donne à boire. Il n'y a pas de prédateurs pour les chihuahuas dans les salons. Eh bien, il faut comparer le maïs au caniche ou au chihuahua. Il faut comparer le champ au salon où on va donner à boire, on va donner à manger, on va retirer la compétition, etc. Et donc, les plantes cultivées sont des plantes qui, dans la nature, seraient inadaptées et fragiles, mais qui se portent très bien dans le champ parce qu'on prend soin d'elles.
Mais est-ce que j'ai le droit de dire, en extrapolant ce que vous venez de dire, François Parcy, que toutes les plantes cultivées sont des caniches ou des chihuahuas?
Moi, je le dirais. Certaines ont été domestiquées de façon un peu plus douce, c'est-à-dire qu'avec moins de caractère, et donc peut-être elles ont encore un petit peu de chance dans la nature. Si on se promène, une bonne façon de voir est-ce que c'est vrai ou non, c'est de regarder est-ce qu'il y a des plantes qui s'échappent des champs. Est-ce qu'on voit des bois se faire conquérir ou des prairies par des pommes de terre, par des aubergines? Est-ce qu'on voit des maïs qui sortent des champs et qui vont s'évader et conquérir la nature? Personnellement, je le vois jamais. Un exemple peut-être, c'est le colza. On voit souvent du colza dans les fossés, par exemple, qui déborde des champs. Ouais. Et le colza, il ressemble à des brassicacées de la même famille. Hein. Donc, on pourrait dire le colza, il n'est pas trop différent de son ancêtre, et donc il a encore une capacité un peu à envahir la nature. Mais pour le reste, si vous avez déjà eu un jardin, vous savez très bien que sans vos soins, nos légumes et nos fruits, ils valent pas grand-chose, ils ont besoin de nous.
La pomme de terre, c'est un cas intéressant. Vous dites que la pomme de terre n'a pas de sexualité, ça veut dire quoi?
Alors, non, elle a une sexualité, désolé de vous corriger,
Non, vous l'avez écrit.
Mais on ne l'exploite pas, c'est-à-dire quand on sème des pommes de terre, on n'exploite pas sa sexualité.
Non, la pomme de terre n'a pas de sexualité, c'est une phrase qui est dans votre livre.
Alors...
Page 35.
Très bien. Alors, la pomme de terre, je corrige la bêtise que j'ai écrite. La pomme de terre a une sexualité dans la nature, et puis ce sont les fleurs de pomme de terre qui vont se croiser, donner des graines de pomme de terre. Néanmoins, dans le champ et dans l'agriculture, la façon dont elle est propagée, c'est essentiellement à partir des pommes de terre elles-mêmes, et donc c'est une propagation qui est clonale.
Alors elle aussi, la pomme de terre, je reviens à elle, elle était toxique au départ.
Bourrée de glycoalkaloïdes.
Alors comment se fait-il que, grâce à Parmentier, elle est pu arriver chez nous et s'adapter aussi bien?
Parmentier, il l'a pas fait venir, il l'a popularisé, hein, effectivement.
Oui, mais il a utilisé des stratagèmes, d'ailleurs.
Mais c'est ce qu'on lit, hein, qu'en fait, il a fait croire qu'il l'a gardé précieusement, il avait mis des gardes de jour, et puis la nuit, il laissait, les gardes au repos et les gens ont volé les pommes de terre. En fait, ça a vraiment eu des conséquences sur la société européenne, puisque cette société qui vivait essentiellement, qui passait l'hiver grâce aux céréales, hein, l'orge, le seigle, le blé, etc., elle s'est mise en partie à passer l'hiver grâce à la pomme de terre. Et donc, effectivement, les tubercules ancestraux, ce qu'on trouve encore dans les pays comme l'Équateur, la Bolivie, le Pérou, ce sont des tubercules qui sont bourrés de chaconine, de saponine, de glycoalkaloïdes qui étaient toxiques, et les populations précolombiennes, elles savaient comment, en les faisant geler, dégeler, rincer, ou alors en mélangeant avec de la chaux, ils pouvaient, entre guillemets, consommer sans s'intoxiquer ces pommes de terre-là. Et petit à petit, ils ont sélectionné des variétés de pommes de terre avec des taux extrêmement réduits dans le tubercule. Néanmoins, les feuilles, les tiges, il ne faut pas les consommer. C'est comme chez la tomate, c'est la même famille, les solanacées. Il ne faut pas consommer les tiges de tomate ou les tiges de pommes de terre parce qu'elles contiennent toujours de ces composés qui vous attaquent d'abord l'intestin et ensuite le cerveau.
Mais qu'est-ce que vous tirez comme conclusion du fait que les humains ont été capables de faire cette domestication sans en avoir conscience? Enfin, on arrive à faire les bonnes choses, entre guillemets, sans être conscient de les faire et sans savoir avec quels critères on doit déterminer les choix.
C'est entièrement non intentionnel, hein. Et presque, quand on l'observe a posteriori, on se dit, mais c'est presque miraculeux, quelque chose des changements aussi radicaux, non intentionnels. En vérité, encore une fois, je pourrais donner un parallèle avec la domestication animale où, quand les humains ont commencé à garder avec eux soit des petits loups, des bébés loups par exemple, ou des bébés béliers, et les garder avec eux, si ces animaux se révélaient méchants et féroces, eh bien ils ne les gardaient pas, ils les tuaient. Au contraire, s'ils étaient dociles, ils atteignaient l'âge de reproduction et ils donnaient une descendance. Et en faisant ça, en fait, ils imposaient une pression de sélection sur la docilité. Eh bien, la toxicité des végétaux, c'est l'équivalent exact de la docilité ou de la férocité des animaux, puisque ce sont les défenses des végétaux et que les humains ont sélectionné des végétaux moins aptes à se défendre contre les prédateurs, moins toxiques,
en les protégeant,
moins amers, en les protégeant.
Mais ça veut dire que cette domestication, c'est une entreprise de... je sais pas si le mot existe, mais de docilisation de la nature.
Ou dénaturation, je sais pas. Mais on a vraiment sorti les plantes de leur contexte naturel, auquel elles ont été adaptées par des millions d'années d'évolution, et on les a mises dans un champ auquel on les a adaptées en quelques milliers d'années, avec des échelles de temps beaucoup plus courtes.
François Parcy, je voudrais qu'on prenne un autre exemple que j'ai trouvé fascinant, c'est celui du maïs, quel est l'ancêtre du maïs, d'où est-ce qu'il vient. Il y a eu des controverses scientifiques terribles qui ont duré très longtemps, qui ont fini par être résolues. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui lui est arrivé pour qu'il devienne finalement cet équivalent végétal du caniche dont on a parlé?
Ouais. Alors, le maïs, effectivement, ça fait partie des trois grandes céréales. Hein. Blé, riz, maïs, ça nous fournit 60% de nos doses caloriques au niveau mondial, hein, sur trois plantes, vraiment. Hein. Donc, le maïs, c'est un immense succès de la domestication. Au départ, c'était une petite plante buissonnante qui s'appelle la théosinte et dont les épis possédaient 7 ou 8 grains enfermés dans une coque solide, comme je le précisais précédemment. Et donc, c'est une plante qui n'était pas tellement adaptée à la nourriture, mais néanmoins, il y avait une graine précieuse. Et au cours de ces étapes de sélection, petit à petit, on a vu apparaître des épis de plus en plus fournis en grains, des grains à moitié nus, puis complètement nus, et également une tige toute droite. Ça, c'est même le premier caractère, le premier gène de domestication qui a été identifié. C'est celui qui explique que le maïs soit une plante toute droite avec aucune branche latérale, aucun tal, alors que la théosinte, elle est très buissonnante. Elle a des tas de branches dans tous les sens.
Et alors, quel était l'argument de l'un et de l'autre? Là, je parle des deux biologistes qui n'étaient pas d'accord sur l'origine du maïs.
Ah oui. Alors, effectivement, il y a deux biologistes qui se sont beaucoup battus hein, là-dessus. En fait, Mangelsdorf, qui a fini prof à Harvard, qui était quand même un très grand scientifique, lui, il disait que une théosinte avec des graines enfermées qui aurait perdu son enveloppe, qui aurait perdu cette protection, ça allait à l'envers de l'évolution et que l'évolution ne pouvait pas aller dans ce sens-là. Donc c'était forcément faux. C'était forcément pas dans ce sens-là parce que l'évolution protège, elle ne déprotège pas. Il n'avait pas compris qu'en fait l'évolution entre les mains de la sélection humaine, elle pouvait aller très vite et aller à l'envers.
Donc il avait oublié le critère de la vitesse.
Il avait oublié à la fois la vitesse et le fait que comme c'est l'humain qui choisit la direction, eh bien on peut voir des choses qui vont, entre guillemets, à l'envers de ce que la sélection naturelle, elle aurait pu faire.
Et pendant longtemps, c'est son explication qui a eu le plus de succès.
Oui, elle a eu du succès auprès du public, effectivement, elle a eu beaucoup de succès.
Et qui a gagné, finalement?
Alors,
c'est Devon? Non.
Non, Ah, je suis désolé.
Ah ben, j'ai retrouvé.
J'ai un trou. Je devrais le savoir parce que c'est un prix Nobel de biologie. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de la personne.
Je vais le retrouver.
Très bien. Et donc, voilà, la personne qui a gagné, c'est celle qui, à l'origine, en tant que jeune étudiant, même avant la thèse, hein, avait avec un botaniste mexicain, fait l'hypothèse que c'était effectivement la théosinte qui était l'ancêtre du maïs. Et c'est quelqu'un qui a été extrêmement brillant, même si j'ai oublié son nom.
Biddle.
George Biddle, merci. Donc, c'est George Biddle qui a quitté ce sujet, qui a fait une thèse sur la relation entre les gènes et les enzymes. À l'époque, il n'y avait rien de connu. Il a obtenu le prix Nobel grâce à cette...
Puis il est revenu à ça plus tard.
Et à sa retraite, il a dit « je vais tordre le cou de la fausse théorie de Mangelsdorf ». Et à sa retraite, il a vraiment triomphé. Il a fait des choses formidables. Il a fait un croisement entre la théosinte et le maïs. Il a semé en deuxième génération 50 000 plantes. Et là, il a vu des épis tout petits comme ceux de théosinte. Il a vu des gros épis du maïs moderne. Et il a vu tous les épis de l'évolution qu'on trouvait sur les statuettes Inca, etc. Et avec ça et d'autres expériences que je ne vais pas raconter, il a démontré que c'était effectivement la théosinte, cette petite plante chétive sans beaucoup d'intérêt, qui était l'ancêtre du maïs.
La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas mettre à la retraite de façon prématurée certains chercheurs.
Les grands scientifiques, il faut les garder longtemps.
Alors vous dites que la tomate, et vous l'avez dit d'ailleurs à ce micro, est une cousine de la pomme de terre. Ça veut dire quoi, cousin ?
Oh, cousin, le mot, il est sûrement pas adéquat, mais tomates et pommes de terre, et aussi les poivrons, les piments, ça fait partie, la belladone, très toxique, font partie des solanacées.
Donc ça veut dire que... Les tomates étaient toutes petites.
Alors, les tomates étaient toutes petites, ouais. Donc, ça veut dire, je termine ouais. sur le cousinage, ça veut dire qu'il y a quelques dizaines de millions d'années, il y avait une seule plante qui était l'ancêtre commun de la pomme de terre, des piments, des poivrons et des tomates, une seule. Et effectivement, à l'origine, les tomates étaient des fruits très petits. Et aujourd'hui, on sait très bien pourquoi les tomates ont grossi. On connaît plusieurs facteurs génétiques qui ont multiplié par un facteur 100 la taille du fruit de la tomate.
Alors François Parcy, vous avez la réputation d'être un homme qui a, je cite, « compris le chou-fleur ».
Compris le chou-fleur.
Qu'est-ce que ça veut dire « comprendre le chou-fleur » ?
Le chou-fleur, lui aussi, est un exemple.
Vous citez Feynman quelque part,
oui.
Le physicien, qui dit que pour comprendre quelque chose, il faut savoir le construire ou le...
Exactement.
Vous avez construit des choux-fleurs.
On a construit des choux-fleurs. Alors, c'est pas moi tout seul. Hein. J'ai travaillé avec un postdoc mexicain, Eugenio et également Christophe Gaudin à Lyon. Et en fait, le chou-fleur, c'est un très bel exemple de domestication. Il ressemble pas du tout à son ancêtre sauvage. Son ancêtre sauvage, il ressemble un peu à un colza. Il fait comme ça une tige avec des fleurs sur le côté. Lui, le chou-fleur, c'est un amoncellement de tiges qui essayent de devenir des fleurs et qui n'y arrivent pas, et qui redeviennent des tiges et qui de nouveau essaient de faire des tonnes de fleurs. Et donc, ce fourmillement que vous avez, ce sont des milliers d'essais avortés de faire des fleurs, mais qui n'y arrivent
pas. Essais d'erreurs, d'échecs.
Et voilà. Et donc, dans ce travail qui a été publié il y a quelques années dans Science, effectivement, on a compris comment on pouvait dérégler les mécanismes qui sont normalement là pour faire des fleurs, comment ils pouvaient se dérégler au point de donner les structures comme le chou-fleur, le magnifique chou romanesco qui a un caractère quasi fractal, mais également les brocolis ou les plantes comme ça qui, en fait, normalement, elles auraient dû faire des fleurs. Et là, elles ont une prolifération qui donne ce que finalement on se plaît à manger, les chou-fleurs ou les choux romanesco.
Alors quand on se promène à côté d'un champ, autour d'un champ, on voit des choses bizarres. Par exemple, si on marche dans un champ de céréales, on remarque que les plantes qui sont à la périphérie sont plus courtes que celles qui sont dans le champ lui-même, alors qu'elles reçoivent plus de lumière.
Mais oui.
Ça paraît paradoxal, ça, non ?
Ça paraît paradoxal, et pourtant c'est très facile à expliquer. C'est ce qu'on appelle l'évitement de l'ombre. En fait, les plantes, elles ont un mécanisme qui leur permet de savoir est-ce qu'elles sont sous un couvert végétal, est-ce qu'elles captent de la lumière qui a déjà été filtrée par des feuilles, ou est-ce qu'elles sont en exposition directe au soleil. Si elles sont en exposition directe au soleil, elles ne vont pas tellement s'allonger. Si elles sont sous un couvert, elles vont s'étioler, c'est-à-dire s'allonger, pour tenter de recevoir la lumière directe du soleil. Et donc, quand vous avez un champ où toutes les céréales ont la même génétique, elles ont les mêmes capacités, elles essayent toutes de pousser, sauf celles du bord, qui reçoivent la lumière directe par le bord et qui n'ont pas besoin de pousser autant. Et donc, une des actions de la domestication dans les années 50-60 qui a valu le prix Nobel à Norman Borlaug, prix Nobel de la paix, ça a été de sélectionner des variétés de céréales plus courtes, puisqu'en fait, ce qui compte pour les céréales, c'est pas tellement la paille, c'est surtout les graines. Et donc, c'était des variétés plus courtes qui avaient arrêté cette course folle vers le soleil qui servait finalement à rien, puisque personne ne pouvait gagner. Et donc, ces céréales plus courtes, elles résistaient beaucoup mieux aux intempéries. Elles se couchaient pas quand il y avait des fortes pluies ou des vents forts. Elles restaient plus solidement debout. Et ça, c'était plus facile pour les récolter après coup.
La revanche des petits. Alors, il y a un grand chapitre dans votre livre qui m'a beaucoup éclairé sur ce qu'on appelle une mutation. C'est une des clés essentielles de la domestication, évidemment. Mais il y a plusieurs sortes de mutations. Est-ce que rapidement, on peut en brosser une typologie ?
Alors, la mutation, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut dire, c'est vraiment au cœur du vivant. Tous les êtres vivants ont des mutations. Il y a des mutations qui se produisent pendant qu'on vit, il y a des mutations qui se produisent dans notre descendance. Et tout ça, ça va faire évoluer le vivant, c'est ce qui a créé les variétés, les espèces, etc. Les mutations, ça peut être des mutations qu'on appelle ponctuelles, des toutes petites mutations. C'est-à-dire qu'au moment où l'ADN, il est par exemple reproduit, il est dupliqué, eh bien il y a une erreur de la machinerie. Puis là où vous devriez avoir un A, hop, vous avez un C, ça donne une mutation ponctuelle. Parfois, il y a des mutations beaucoup plus grandes. Il y a par exemple des morceaux d'ADN de plusieurs milliers de bases. Hop, ils vont sauter, ils vont disparaître, ils vont s'inverser, ils vont se mettre au mauvais endroit. Et il y a aussi des éléments qu'on appelle les éléments transposables ou les transposons, qui sont des séquences sauteuses et qui ont la capacité à changer de position dans le génome. Et en arrivant dans une nouvelle région, elle-même, eh bien, elle modifie quelque chose, elle crée une interruption. Et l'endroit dont elles partent, elle laisse une trace de leur départ. Et là aussi, c'est une mutation. Et par exemple, tout à l'heure, je disais, la théosinte, c'était une plante buissonnante et le maïs, c'est une plante toute droite. Eh bien, la mutation qui a causé le côté très droit, absence de branche du maïs, c'est justement un de ces éléments transposables qui a atterri à côté d'un de ces fameux régulateurs qui empêchent les branches de pousser. Et bien, dans le cas du maïs, en fait, l'arrivée de l'élément transposable, il a rendu ce régulateur très fort, très apte à empêcher les branches de pousser, et donc on a eu cette plante rectiligne.
Et donc, qu'est-ce qu'on appelle une domestication quand on a ces définitions des mutations ?
La domestication, c'est la sélection de mutageux... Pardon. La domestication, c'est la sélection de mutations avantageuses pour l'humain. L'humain cultivateur et l'humain consommateur. Ce sont des mutations qui vont faciliter la culture ou faciliter la consommation, retirer l'amertume, retirer la toxicité, avoir des fruits plus gros, des graines qui restent attachées, des plantes qui viennent de l'équateur et qui pourtant poussent dans nos régions. Tout ça, ce sont des caractères qui sont dus à des mutations. Et donc, loin de voir la mutation comme quelque chose de dangereux, la mutation, non seulement elle est source de diversité dans la nature, mais elle est également celle qui nous a permis d'avoir toute la nourriture d'aujourd'hui, d'avoir une cuisine méditerranéenne riche de plantes qui, à l'origine, venaient du Pérou ou de Bolivie et qui n'auraient jamais pu pousser chez nous, si on n'avait pas, sans intention, déréglé leur horloge interne pour leur permettre de pousser sous des jours beaucoup plus grands, à des latitudes différentes, etc.
François Parsi, à la page 112 de votre livre, vous écrivez cette phrase pour laquelle j'aimerais avoir votre analyse. Disons, vous dites, les plantes ne sont pas des animaux, tous les êtres vivants ne sont pas équivalents, et autant je suis choqué par certains traitements subis par des mammifères ou des oiseaux, autant j'accepte les mauvais traitements infligés aux plantes. Pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin d'écrire cette phrase et comment est-ce que vous la recevez? Comment est-ce qu'elle est reçue par ceux qui vous lisent?
La façon dont je l'ai écrit, elle est plutôt légère et amusante, mais au fond, ce que j'ai voulu dire, c'est quelque chose tout de même assez profond. C'est-à-dire que les plantes, quand on tond son gazon, on souffre pas pour elles. Quand on les fait cuire, on prend pas la peine d'abord de les tuer, puisqu'on... les plantes... à notre connaissance, n'ont pas de système nerveux. Donc, elles ne ressentent pas la souffrance. Et je pense qu'il y a un lien entre ce qu'on est capable de faire subir aux plantes. Par exemple, on prend une carotte vivante, on la coupe en tranches, on souffre pas pour elle, on trouve ça normal. Si on faisait la même chose, prendre un animal vivant et le couper en tranches, ça nous paraîtrait autrement plus cruel. Et je pense que dans la sélection de mutations qui vont modifier l'apparence des plantes, c'est un peu le même guide qu'on a en tête. C'est-à-dire que on est capable d'avoir des plantes avec des fruits beaucoup plus gros, on multiplie par 100 la taille de la tomate. Est-ce qu'on aurait envie de faire ça avec la cuisse de poulet, par exemple? Est-ce que ça ne semblerait pas monstrueux de faire ça? Donc, personnellement, je pense qu'il y a des choses qui sont acceptables sur les êtres vivants que sont les plantes, qui ne le seraient absolument pas sur des vertébrés ou sur des mammifères.
Mais il y a peut-être le langage qui est trompeur. Par exemple, on parle de la fatigue d'un arbre. On donne l'impression que les plantes souffrent. Elles se déshydratent, elles sont victimes de la sécheresse.
Elles subissent des stress. Et c'est très à la mode aujourd'hui. C'est très à la mode d'humaniser un peu les plantes ou d'anthropomorphiser notre raisonnement.
Ou de verdir notre conscience.
Mais personnellement, je pense qu'effectivement, il y a une grande différence. Cette absence de système nerveux, même s'il y a des signaux qui se propagent dans la plante, cette absence de souffrance avérée fait que ça me choque beaucoup moins de modifier les plantes plutôt que de le faire sur des êtres beaucoup plus proches de nous, entre guillemets, que ce soit des vertébrés, encore une fois, ou même des mammifères.
François Parsi, Baudelaire, qu'on citait tout à l'heure, termine son petit poème en parlant du mystique aliment qui leur ferait vigueur aux plantes dont ils rêvent, enfin, qu'ils rêvent. On peut définir, vous l'avez fait un peu rapidement tout à l'heure, ce que vous appelez la vigueur hybride, compte tenu de ce qu'on vient de dire sur les mutations?
Alors, la vigueur hybride, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé en agriculture. C'est la capacité d'une graine à être extrêmement robuste et vigoureuse et productive si elle a été produite par deux parents qui eux-mêmes sont très homogènes mais très différents. Vous prenez par exemple un maïs numéro 1 qui donne un rendement correct mais pas terrible, mais qui est très homogène génétiquement. Un deuxième maïs numéro 2 qui lui aussi est très homogène, vous les croisez. Dans la première génération, donc ça veut dire qu'il y a un plan qui sert de mâle, un plan qui sert de femelle, il faut bien les choisir et les empêcher de s'auto-féconder. Il faut être sûr que ça soit bien en croisement. Donc c'est un travail un peu difficile. Là, vous allez avoir une graine qu'on appelle la génération F1, c'est la première génération, c'est pour ça qu'on dit les hybrides F1. Cette graine-là, elle va vous donner des plants de maïs qui seront très costauds, robustes, qui résistent bien aux maladies et qui ont un gros rendement. Mais si vous reprenez les graines issues de ces maïs-là et que vous les ressemez, dans le champ, il va y avoir tout et n'importe quoi. Il va y avoir des maïs costauds, des maïs pas costauds, ça va être un grand mélange. Parce que la fameuse vigueur hybride qui est vraie dans l'hybride F1, elle se perd petit à petit
de génération en génération.
Ça a des conséquences pratiques parce que ça veut dire que l'agriculteur, s'il veut les bons rendements, il est obligé d'aller chez le semencier chaque année et d'acheter ces hybrides F1. Ils le font non pas parce qu'ils sont obligés, ils le font parce qu'en fait, globalement, ils y gagnent. Ils dépensent un peu plus d'argent dans la semence, mais ils gagnent beaucoup plus dans la récolte, et donc ils le font. Je connais pas les chiffres exacts, mais plus de la moitié, peut-être trois quarts des choses qu'on sème aujourd'hui en agriculture ou dans votre jardin, ce sont des hybrides F1. Néanmoins, il y a des plantes qui ne sont pas améliorées de cette façon. Le blé, par exemple, les agriculteurs ressèment une partie de leur récolte. Le blé n'a pas été amélioré comme ça. Ce qui fait qu'on peut garder une partie de sa récolte et la ressemer chaque année. Il n'y a pas de perte. Mais on n'exploite pas la vigueur hybride pour le blé.
François Parsi, quelle relation votre laboratoire ou vous-même avez avec les agriculteurs? Est-ce qu'ils tiennent compte de ce que vous découvrez, de ce que vous comprenez? Ou est-ce que dans l'agriculture, il y a beaucoup de répétitions, de choses traditionnelles?
Alors, comme vous l'avez dit, moi je suis dans un laboratoire qui est un peu une tour d'ivoire, donc je ne peux pas dire que j'ai des grands contacts avec les agriculteurs. Néanmoins, chaque fois que je voyage à vélo, chaque fois que j'ai l'occasion, je discute avec des agriculteurs. Et aussi, j'utilise les réseaux sociaux hein, pour discuter avec eux. En particulier sur Twitter, il y a un réseau qui s'appelle France Agri Twitter, qui est très actif. Et donc, je discute avec eux, je discute publiquement, je discute en message privé aussi pour avoir leur avis. Et il y a vraiment des agriculteurs qui militent pour qu'on leur donne les moyens de continuer à produire dans des conditions, comme on le disait au début, plus respectueuses. Par exemple, on sait qu'il sera capable dans le futur, de créer des plantes chez lesquelles cette vigueur hybride, elle se propage de génération en génération. Elle n'est pas perdue.
F2, F3, etc.
Les F2, les F3, les F1 seront toutes identiques à la F1. On sait que ça va exister. Néanmoins, ça, c'est pas commercialisé. On sait qu'il est possible de faire des plantes qui résistent par elles-mêmes aux attaques de champignons, de bactéries, de virus, qui résistent par elles-mêmes, sans avoir à mettre des insecticides pour tuer le vecteur du virus, par exemple. Et donc, les agriculteurs avec lesquels je discute, certains d'entre eux, sont impatients de voir arriver. Ils ont le même rêve que Baudelaire, ces fleurs nouvelles, qui auront une vigueur qui n'est pas aujourd'hui présente dans les plantes qui sont cultivées.
Alors, il y a des mots qui sont toujours chargés d'un halo symbolique plutôt négatif, notamment le terme plante transgénique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plante transgénique? Est-ce qu'on peut l'expliquer rapidement? Et en quoi elle se confond ou non avec ce qu'on appelle un OGM?
Alors, effectivement, il faut bien expliquer tout ça. Je vais faire un petit survol très bref de la domestication. Au début, on a sélectionné des plantes qui apparaissaient dans la nature avec des mutations. Ensuite, on a croisé des plantes qui venaient d'endroits différents, donc qui avaient évolué séparément, accumulé des mutations. On les a croisées entre elles et on a mis ensemble des mutations qui ne s'étaient jamais vues. Ensuite, on a compris qu'on pouvait introduire des mutations avec des rayons X, des rayons gamma, des agents chimiques mutagènes. Et enfin, dans la fin des années 80, on s'est rendu compte qu'on pouvait exploiter un mécanisme naturel, mais qu'on détournait, pour aller introduire de l'ADN étranger dans des plantes. On peut prendre de l'ADN de n'importe quel organisme et le faire entrer dans le génome de la plante. Ça, c'est ce qu'on appelle les plantes transgéniques. Ça a servi à faire des plantes qui résistent aux herbicides, qui résistent à certains insectes. On pourrait en parler longuement. Ce qui est appelé OGM, aujourd'hui, ce sont à la fois ces plantes transgéniques et les plantes dans lesquelles on a introduit des mutations par la mutagénèse par les rayons, par exemple. La grande différence, c'est que si on a introduit des mutations au hasard, on appelle ça des OGM non régulés, il n'y a pas de loi spéciale, on les mange tous les jours depuis 80 ans, ça ne présente aucun danger apparent, etc. Donc ça, ce n'est pas régulé. Mais les plantes transgéniques, elles, en Europe en tout cas, sont sévèrement régulées, au point d'être quasiment pas cultivées. Il y a un peu d'exceptions en Espagne et au Portugal, mais elles sont interdites en Europe. Elles sont par contre cultivées massivement en Amérique du Sud, par exemple. Donc, moi, j'aime pas trop le terme OGM parce qu'il englobe beaucoup de choses. Je préfère parler de plantes transgéniques, effectivement, ADN étranger introduit à l'intérieur du génome, versus plantes dans lesquelles on a simplement mis des mutations, et ça, ce sont des OGM non régulés.
Il y a une révolution qui s'est faite, dont tout le monde a parlé il y a quelques années, l'apparition du fameux CRISPR-Cas9, une baguette magique dont vous dites qu'elle permet d'accélérer de façon vertigineuse le processus de domestication, pardon. Est-ce que ça produit des variétés qui sont qualifiables d'OGM ou est-ce que c'est tout à fait autre chose? François Parcy.
C'est une très bonne question. Avant d'y répondre, je dois dire qu'effectivement, CRISPR-Cas9 ou les autres façons d'aller introduire des petits trous dans les génomes, c'est un outil extrêmement puissant. Et tout ce qui a été fait de façon non intentionnelle, sans y comprendre absolument rien jusqu'à aujourd'hui, on pourrait, et on peut, ça a été montré, on peut le répéter aujourd'hui de façon intentionnelle. On peut choisir de prendre une petite tomate qui vaut rien du tout, mais qui pousse sur des sols salés, et la faire grossir. Ça a été fait sur la tomate qui s'appelle Solanum pimpinellifolium, avec un joli nom. On a fait grossir son fruit. Donc oui, il existe aujourd'hui une façon, non plus de faire des mutations au hasard, en croisant des variétés très éloignées, ou avec une mutagénèse massive par des rayons X, par exemple. Il y a une façon d'aller droit au but et d'introduire des mutations.
En quoi c'est une révolution pour vous?
C'est une révolution parce que jusqu'à présent, on mettait des mutations partout et on essayait de trier celles qui étaient néfastes pour la plante, celles qui étaient bénéfiques pour les humains. Aujourd'hui, au lieu de faire ça, on peut utiliser les 30 ans de connaissances en génétique moléculaire depuis la fin des années 90. On accumule des connaissances massives qui n'existaient pas au début des plantes transgéniques. Et aujourd'hui, au lieu de mettre des mutations partout et de trier, voilà, est-ce qu'il n'y en a pas par hasard qui nous arrange et puis maintenant il faut nettoyer toutes celles qui nous dérangent, on peut choisir de mettre simplement des mutations qui nous arrangent. Et quand je parlais tout à l'heure de rendre la vigueur hybride éternelle, eh bien on peut choisir avec cette mutation CRISPR de rendre un riz éternellement vigoureux avec l'agriculteur qui peut ressemer une partie de sa récolte de riz, alors qu'aujourd'hui, ce n'était pas possible. On peut choisir d'avoir des plantes résistantes à des tas de maladies. On peut choisir d'avoir du blé dépourvu de gluten. On peut faire des tas de choses grâce à ces outils.
Il faut un ciseau et un guide.
Il faut un ciseau et un guide. Il faut le guide.
Qu'est-ce qu'on appelle le ciseau et qu'est-ce qu'on appelle le guide, en l'occurrence?
Le ciseau, c'est une protéine qui s'appelle Cas9. Et donc, c'est elle qui va couper l'ADN. C'est une enzyme qui a la capacité à faire une section de l'ADN. Le guide, c'est celui qui va dire au ciseau où aller. C'est une sorte de GPS, une balise dans un... C'est vraiment... Vous voyez, un génome, c'est gigantesque. C'est des, voilà. Et en fait, on a la capacité d'amener les ciseaux exactement là où on veut. Alors... Il peut faire une ou deux erreurs, hein. Parfois il va couper au mauvais endroit, mais par rapport à ce qui se produit dans la nature, c'est juste des nombres absolument ridicules. Donc en fait, on a ce guide qui amène le ciseau coupe. Lorsqu'il coupe, la cellule va réparer. Des fois elle répare bien, ça fait rien. Des fois elle répare mal, ça fait une petite mutation. Et puis si on fait deux coupures, parfois la cellule va pas arriver à réparer, on fait sauter un morceau. On a par exemple 1000 bases qui vont sauter et là on aura un trou dans le génome et ensuite la cellule va réparer en recollant les deux bouts mais sans y insérer le morceau qui aura sauté.
François Parsi, quand on vous lit et quand on vous écoute, on sent votre enthousiasme pour les possibilités nouvelles qu'offre CRISPR-Cas9. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui craignent qu'on aille trop loin en explorant cette voie? Et vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que les variétés CRISPR-Cas9 sont ou non des OGM?
Oui, alors, la réponse elle est simple. Oui, ce sont des OGM. Ce sont des OGM parce que, sous l'influence de la technologie humaine, on a introduit des mutations voulues dans une plante. On a introduit 5 mutations dans une plante. Pour moi, ce sont des plantes qui sont beaucoup moins modifiées que celles qu'on utilise depuis 80 ans, qu'on consomme depuis 80 ans, et qui ne sont pas régulées. Donc, je pense que la logique voudrait que ces plantes-là, elles ne soient pas non plus régulées et qu'on facilite leur utilisation. Mais oui, la réponse, elle est très claire. Ce sont des OGM, ce sont des plantes qui ont été génétiquement modifiées par les mains de l'homme. Alors, effectivement, moi, je pense que l'agriculture aujourd'hui, comme vous l'avez dit en introduction, elle a des défis énormes. Elle doit continuer à produire à des coûts à peu près corrects. Elle doit, si possible, résister au changement climatique, ce qui va être pas une mince affaire pour les plantes. Elle doit éviter d'augmenter le changement climatique avec ses émissions, soit de méthane, soit de CO2. Et elle doit aussi minimiser l'utilisation des intrants, l'eau, les engrais, les pesticides. Tout ça, c'est un enjeu...
colossal.
Colossal. C'est une face nord à gravir. Vraiment. C'est une très grosse montagne. Est-ce que CRISPR, c'est la baguette magique et que ça va tout résoudre? Bien sûr que non. Moi, je pense que changer nos habitudes alimentaires, introduire des nouvelles variétés, introduire des nouvelles espèces, aller vers l'agroécologie, tout ça, ce sont des possibilités pour tenter de résoudre les défis qui aujourd'hui s'offrent à nous. Mais je pense que les variétés CRISPR, c'est un outil formidable. Parfois, ça permet des transitions en douceur. Si vous voulez, au lieu de dire, ben maintenant, il faut cultiver le maïs avec les haricots, avec une synchronisation de la floraison, comme on le fait en agroécologie, on va mélanger les cultures. Ça demande des changements de pratiques qui peuvent se faire, mais qui vont prendre du temps. Si simplement, on vous donne une variété de betterave qui résiste au virus, c'est plus facile. La transition vers des pratiques qui seront beaucoup plus écologiques, eh bien, elle est plus facile avec des variétés qui sont d'elles-mêmes renforcées par la capacité naturelle des plantes à se défendre, parce que les plantes possèdent des gènes de résistance aux virus, aux bactéries, aux champignons, aux oomycètes, etc.
Prenons un autre exemple. Est-ce que CRISPR-Cas9 permet de domestiquer des plantes qui sont annuelles pour les transformer en plantes pérennes? Et ça consiste en quoi?
Ça me fait complètement rêver, en fait. Parce que regardez, on a surtout domestiqué des plantes annuelles. Pourquoi? Parce que c'était facile, on faisait plein de générations et on pouvait comme ça faire de la sélection en accéléré. Les tomates sont des plantes, elles fleurissent, elles meurent. Le blé, il fleurit, il fait ses graines, il meurt, etc. Donc, à part les arbres fruitiers, on est surtout, notre agriculture, elle est surtout basée sur des plantes annuelles. L'avantage d'une plante pérenne, et ça existe, il y a des variétés de riz pérennes par exemple, mais qui sont beaucoup moins productives, etc., qui n'ont pas été domestiquées. L'avantage d'un riz pérenne, c'est qu'il a des racines qui font 3 à 4 fois la longueur de celle du riz annuel. S'il y a une sécheresse passagère, un blé par exemple qui est un blé pérenne, il va être capable de résister à la sécheresse passagère. Il n'y aura pas besoin d'aller couper la partie verte, d'aller labourer le champ. Donc, en fait, si on réussissait à convertir des blés annuels en blés pérennes, on pourrait se dire, ben, pendant 5 ans, on cultive la même plante, on lui coupe la tête et on récolte chaque année. Je ne dis pas que ça ne pose pas de problème, parce que la sensibilité aux maladies, elle est plus forte chez des plantes qui restent plusieurs années. Donc, on devra aussi trouver des variétés résistantes. Mais il me semble qu'il y aurait moins d'impact CO2, moins de labour, moins de semis. Des plantes qui sont plus résilientes, qui sont plus robustes, qui vont mieux résister à une sécheresse passagère. Et dans la nature, ce passage pérenne vers annuel, il s'est fait souvent. C'est pas des centaines de mutations pour passer d'une plante pérenne à une plante annuelle. Il y a même un exemple chez une plante de laboratoire où avec deux mutations, on l'a quasiment convertie de plante annuelle à plante pérenne. Donc, l'un de mes rêves, et c'est vrai que c'est ce que je partage dans le livre, c'est le fait qu'on pourrait peut-être convertir une partie de nos grandes cultures en plantes pérennes et éviter certains des impacts de l'agriculture et profiter aussi du fait qu'elles résistent mieux à des conditions climatiques qui deviennent de plus en plus difficiles pour les plantes.
Mais François Parti, est-ce que la législation actuelle en Europe permet de faire d'utiliser ces techniques dans le but que vous avez indiqué ou est-ce que c'est interdit ?
Pour l'instant, c'est interdit. C'est-à-dire que pour l'instant, la loi, elle dit que les plantes CRISPR sont des OGM régulés au même titre que les plantes transgéniques. Néanmoins, il y a eu le mois dernier des discussions au Parlement européen pour tenter d'assouplir cette loi et de faire en sorte qu'on puisse, au cas par cas, profiter des avancées de CRISPR. Et quand je dis au cas par cas, c'est très important, parce que jusqu'à présent, on a interdit les OGM pour leur processus d'obtention et non pas pour ce qu'elles sont. On a mis dans le même panier une OGM résistante à un herbicide comme une OGM qui résiste à la sécheresse. Tout est interdit. Aujourd'hui, l'Europe réfléchit à ne pas interdire les variétés CRISPR dans leur ensemble, mais de réfléchir à quelles sont les variétés CRISPR qui pourraient être vertueuses pour l'agriculture et celles dont l'agriculture européenne ne veut pas. Et donc je pense que là, on a franchi un cap essentiel, c'est de réfléchir au cas par cas et de commencer à se demander s'il ne serait pas bon de permettre à des tas d'entreprises qui ne sont pas seulement les très très grandes de profiter de cette technologie pour fournir des plantes CRISPR dans des tas d'espèces différentes. Aux États-Unis, où la législation est plus souple, mais elles sont tout de même regardées de près, mais c'est plus souple, on commence à avoir des projets pour des tas de plantes différentes qui n'ont jamais été touchées par la transgénèse à l'échelle industrielle, essayer de faire des framboises sans graines, des citrons qui résistent aux maladies, il y a déjà un maïs qui va avoir une farine beaucoup plus onctueuse, etc. Il y a des tas de plantes qui peuvent être la cible, et moi j'aimerais beaucoup que l'humanité, et je pèse mes mots, hein, bénéficie de cette technologie pour une agriculture plus respectueuse et plus durable.
Mais François Parti, quand on lit, on s'aperçoit que ces sujets sont quand même très compliqués. Est-ce que vous pensez que le monde politique peut se saisir de cette complexité, faire du cas par cas, comme vous l'indiquez, ou est-ce que c'est le halo symbolique dont on parlait tout à l'heure, négatif du simple mot OGM, qui va bannir ces choses sans qu'on ait besoin d'aller les regarder de près ?
Mais c'est terrible parce que, vous voyez, moi j'ai écrit ce premier livre qui parlait des fleurs et j'étais le gentil chercheur qui parle des fleurs. Aujourd'hui, je suis passé un peu dans l'autre camp, hein, du côté sombre, quoi. Je suis le chercheur qui défend les OGM, qui veut faire des manipulations, de l'apprenti sorcier, le technosolutionniste, etc. Alors qu'au fond, je suis la même personne. Moi, je me sens profondément écologiste et profondément en faveur d'une agriculture plus durable. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce halo négatif autour des OGM et qu'aujourd'hui, et je le vois pour mes collègues, les gens qui osent aller à la radio et dire vraiment ce qu'ils pensent sur ces plantes-là, ils sont pas si nombreux. Et la motivation principale d'écrire ce livre, c'était précisément parce que je pense qu'il y a besoin de connaissances et il y a besoin de baser des décisions, non pas sur des dogmes, non pas sur des sentiments viscéraux, mais sur de la connaissance. Et c'est ça qui m'a poussé à rédiger et à finaliser ce livre.
Et est-ce que vous êtes optimiste sur la façon de transmettre ces connaissances, pourquoi qu'elles soient prises en compte d'une part par l'agriculture de demain, mais aussi par les politiques dans les choix qu'ils font en Europe ou ailleurs.
Je pense à ce sens dans mon dernier chapitre, moi je suis profondément optimiste, je pense qu'on va y arriver. Je pense que c'est tellement évident, quand on a les bonnes connaissances, c'est tellement évident qu'on peut les utiliser, qu'il n'y a pas de danger spécial et que être contre, c'est une position de principe qui n'a pas de base scientifique, que je suis optimiste. Par contre, quel temps ça va prendre ? Là, je ne sais pas. Je regrette que énormément de nos personnalités politiques n'aient pas ce bagage scientifique qui leur permet de réfléchir sur le sujet avec des connaissances et non pas simplement en suivant un peu soit les tendances de l'opinion, soit des sentiments beaucoup basés sur des dogmes.
François Parti, il y a un chapitre dans lequel qui s'intitule « Une liste quasi infinie ». Ça m'a fait rire parce que quasi infini, vous êtes polytechnicien, donc c'est bizarre. On peut pas être quasi infini, soit on l'est, soit on l'est pas, quoi. On peut pas être un peu infini. Bon, ça c'est un détail, mais vous dites qu'il y a une liste quasi infinie de potentialités que donne cette technique. Mais est-ce qu'on peut comparer la liste des possibles au nombre de plantes qui, dans l'histoire de l'humanité, ont contribué à l'alimentation humaine? Vous donnez un chiffre, je sais pas comment il a été calculé. Vous dites qu'il y a 3000 plantes qui, dans l'histoire, ont servi à nourrir l'humanité. Et on est passé quasiment
quelques dizaines,
enfin, surtout le blé, le maïs.
Exactement. Et alors, effectivement, c'est un article publié dans Science, il y a pas mal de temps déjà, qui avait répertorié 3000 plantes qui, un jour, ont été consommées par les humains. Et donc, ça veut dire que le potentiel qu'on exploite aujourd'hui, il est extrêmement faible. Donc, je suis d'accord que mon terme quasi infini n'était pas correct, mais en termes de nombre d'espèces, c'est déjà un facteur peut-être 100 par rapport aux plantes qu'on a aujourd'hui. Et ensuite, au sein de chaque espèce, le nombre de mutations qu'on peut faire pour tenter de les améliorer, de les rendre plus nutritives, plus résistantes à la sécheresse, résistantes au sol salé, résistantes au, je sais pas, à l'inondation, par exemple. Tout ça, c'est aussi des possibilités. Donc, effectivement, si on multiplie le nombre d'espèces qui n'ont pas été touchées avec le nombre de mutations qu'on pourrait introduire pour tenter de modifier, y compris notre alimentation, peut-être prendre des plantes oubliées d'Amérique du Sud. On parlait tout à l'heure de l'amarante, hein, qui a été oubliée alors qu'elle a des vertus, qui a été oubliée par les Espagnols parce qu'elle
pour
était
pour des raisons bizarres.
Mais elle était associée à des sacrifices humains par les populations précolombiennes. Donc les Espagnols ont dit, on touche pas à l'amarante, mais l'amarante a un grand potentiel qui n'a jamais été exploité. Aujourd'hui, si on veut domestiquer l'amarante, on a le choix de faire ça par croisement et de prendre des dizaines d'années, ou de réfléchir à quelles sont ses faiblesses, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer grâce à la connaissance, et utiliser les ciseaux moléculaires magiques pour tenter d'avoir des graines un peu plus grosses, un peu plus nombreuses, mieux accrochées à l'épi.
Mais quelle serait, François Parcy, la dynamique des transitions dont vous parlez? Est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour mettre en place une nouvelle filière agricole à partir de ces variétés? Est-ce qu'il y a une urgence à cause des contraintes qu'on a dites tout à l'heure? Est-ce que vous pensez qu'on a le temps d'attendre ou pas?
Moi, je dirais, commençons par les plantes qu'on cultive déjà. Si on peut avoir des betteraves, des céréales, des vignes qui résistent mieux aux maladies, ces plantes-là, on les connaît, on les cultive chez nous. Donc ça, on pourrait commencer par ça, et ça, c'est de l'ordre de quelques années. Ensuite, effectivement, si on veut prendre une plante tropicale et l'amener chez nous, la domestiquer, ça peut prendre beaucoup plus longtemps. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça mérite de le faire? Est-ce que... voilà. Mais pour moi, le changement climatique, il arrive beaucoup trop vite pour qu'on puisse se dire, avec les méthodes classiques, on va arriver à créer des nouvelles espèces.
Mais est-ce qu'il a déjà des effets tangibles?
Il y a déjà des effets tangibles, bien sûr, sur les récoltes. Alors, simplement, des petites augmentations de température. Là, aujourd'hui, on voit que, malgré les progrès génétiques sur les céréales qui continuent d'exister, les rendements, ils stagnent à cause des conditions climatiques. Donc on les voit déjà. Et je pense qu'on en a juste un petit avant-goût. Mais qu'il y a des évolutions des maladies. Quand la température, l'humidité changent, les maladies sont différentes qui vont attaquer les plantes. Et donc, je pense que les enjeux en termes agricoles sont vraiment colossaux. Et qu'on n'a pas fini de se battre contre.
Comment est-ce qu'il est reçu, votre livre, François Parcy? Je rappelle son titre, Les clés du champ. Très beau titre, hein, d'ailleurs. Belle trouvaille. Avec comme sous-titre, Comment domestiquer les plantes. Est-ce que vous avez des retours?
Je pense que c'est à vos auditeurs qui pourraient poser la question. J'ai des retours de gens qui sont des gens assez proches, qui m'ont dit avoir eu vraiment, avoir découvert un univers qu'ils ignoraient complètement.
C'est mon cas.
Et c'est ça qui m'a fait plaisir. Alors j'espère avoir réussi à faire passer ce message qu'en fait, aujourd'hui, quand je discute avec mes amis, ma famille, les gens qui sont dans la même famille de pensée, il y a ce halo négatif des OGM. Et j'essaie à chaque fois d'expliquer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et vraiment, j'espère qu'en lisant ce livre, on se rend compte que finalement, les mutations, c'est la source de vie, c'est la source de diversité. Et être capable d'en choisir quelques-unes qui seront bénéfiques pour notre agriculture ou pour notre consommation, c'est plutôt quelque chose de bien. Mais je me doute bien que selon les personnes qui vont lire ce livre, peut-être que leurs a priori seront tellement forts que je ne réussirai pas à les convaincre, je ne me fais pas d'illusions non plus.
Hein. Enfin, le livre c'est surtout de la pédagogie, hein. Vous expliquez les résultats de la recherche avec des références scientifiques.
Le livre il est très factuel, il part de l'histoire, après il raconte les techniques, et à la fin je me permets une envolée assez modestement en disant qu'est-ce qu'on pourrait en faire et comment on pourrait faire évoluer, voire révolutionner notre agriculture. Mais la vaste majorité de la matière dans ce livre, c'est de la matière scientifique sourcée par des dizaines de références.
Est-ce que la question de savoir comment l'embryon change de forme vous intéresse?
Oh ben, ça, c'est du développement, c'est de l'évolution, c'est tout ce qui m'intéresse.
On va écouter ensemble la chronique d'Alexandra Delbo avec Science. Comment l'embryon change-t-il de forme?
Comment l'embryon change-t-il de forme? Cela se passe au troisième jour, après la fécondation. L'ovule a rencontré sa gamète et fusionné avec elle. Trois divisions ont déjà été enclenchées, ce qui fait que cet embryon n'est encore composé que de 8 cellules. Ce tout petit amas ne mesure pas plus d'un dixième de millimètre, mais c'est à ce moment qu'un changement essentiel se produit, c'est la compaction. Les cellules vont se rapprocher les unes des autres, ce qui entraîne un changement de forme et va accompagner une nouvelle division cellulaire, le faisant passer de 8 à 16 cellules. Cette étape est cruciale pour son développement. Un défaut à ce stade scelle son destin. Et jusqu'à présent, on pensait que cette transformation était guidée par les adhérences entre cellules embryonnaires. Jean-Léon Maître est directeur de recherche CNRS dans l'équipe mécanique du développement des mammifères à l'Institut Curie et dernier auteur de cette étude parue dans Nature.
Donc au stade de 8 cellules, c'est à ce moment-là que donc ce phénomène de compaction se produit où les cellules vont venir s'écraser les unes sur les autres. Donc tout était en 3D avant, mais on avait un ensemble de billes qui étaient légèrement attachées les unes aux autres. Et maintenant, on passe à des sphères qui viennent s'écraser les unes contre les autres. Donc les cellules ne sont plus complètement sphériques. Donc les cellules qui sont légèrement attachées les unes aux autres déjà avant la compaction s'accrochent entre elles grâce à des molécules d'adhésion qui s'appellent des cadhérines, qui ont été co-découvertes dans le laboratoire de François Jacob dans les années 80, dans cet embryon donc qui se compacte. Et donc c'était une découverte très importante pour notre compréhension de la biologie cellulaire, de savoir comment les cellules peuvent se coller les unes aux autres, mais c'est pas forcément ça qui explique le phénomène de compaction. Et donc pendant longtemps, on a cherché les changements dans cette colle, et on a cherché, puis on n'a pas vraiment trouvé de changement dans la quantité de colle, ou dans le type de colle, ou l'activité de la colle. Et donc ce champ d'études a fait beaucoup de progrès dans d'autres domaines de la biologie que ce phénomène de compaction. Mais pour la compaction, on n'a pas vraiment trouvé d'explication au niveau de la colle.
Et il y a bien sûr une limitation éthique à ce type d'étude. On ne peut pas faire n'importe quelle expérience sur des cellules embryonnaires humaines. Alors, il a fallu creuser la question d'abord chez de nombreux modèles animaux. Au début des années 2000, les scientifiques ont découvert que les cellules animales, en général, changent les tissus de forme par le biais non pas de la quantité ou de la qualité de ces protéines d'adhésion de cette colle, mais grâce aux forces qu'elles peuvent générer en se contractant. Et cette contraction existe dans toutes les cellules, pas seulement dans les cellules musculaires. Il faut imaginez des filaments internes qui tirent les cellules à quatre épingles et permettent de les tendre un peu plus par endroit et par moment. Cette contraction aurait-elle un rôle pour la compaction de l'embryon humain, pour son tout premier changement de forme? C'est ce qu'a voulu explorer cette étude. En récupérant des embryons humains auprès de couples après une PMA, les auteurs et autrices ont mesuré les tensions de surface des cellules et perturbé l'adhésion et la contraction des cellules de l'embryon. Résultat, c'est bien la capacité des cellules à se contracter qui provoque la compaction de l'embryon.
Cette tension, donc, c'est ce qu'on mesure quand les cellules se contractent. Et ce qu'on voit, donc, c'est que cette tension change pendant ce phénomène donc, de compaction où les cellules changent de forme. Et ensuite, on a interféré avec les processus d'adhésion, interféré avec les processus de contraction des cellules. Et on a vu que l'adhésion est importante pour le phénomène de compaction, la contraction est importante pour les phénomènes de compaction, pour les changements de forme. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il y a plus de colle, c'est parce que les cellules se tirent les unes sur les autres et qu'elles ont besoin de pouvoir adhérer les unes aux autres, mais il n'y a pas de changement dans la colle. Ce n'est pas une surprise quand on a fait ces mesures sur les embryons humains. Le même processus se passe d'une manière très similaire, pas exactement pareil, très similaire chez la souris. Et encore une fois, c'est quelque chose qui était connu chez le poisson zèbre avant et chez la mouche auparavant. Et je voudrais dire que donc on ne se serait pas permis de faire ces expériences chez les embryons humains si on ne savait pas ce qu'on faisait. On était vraiment certains de pouvoir faire nos expériences, on était certains de pouvoir faire nos mesures, qu'elles marcheraient à chaque coup, et qu'on n'aurait pas besoin d'un grand nombre d'embryons pour pouvoir faire cette étude. C'était important pour nous.
Cela confirme donc que nous sommes à peu de choses près comme tous les autres animaux et que nos changements de forme qui commencent par cette compaction de l'embryon et qui finissent avec les traits de nos visages sont régis par les mêmes mécanismes, la contraction des cellules. C'est une étape importante pour la recherche fondamentale, mais c'est également un enjeu pour les PMA parce que comprendre comment l'embryon se développe au tout premier stade est essentiel pour sélectionner uniquement les mieux formés pour l'implantation. La suite de ces travaux, ce sera d'étudier et de déterminer d'où proviennent les problèmes de contraction des cellules qui empêchent parfois certains embryons de se compacter.
Merci Alexandra, merci à vous François Parsi. Je recommande la lecture de votre livre Les clés du champ et je livre à votre réflexion ce dicton de Pierre Date: greffer des plants de rosiers sur des plants de vigne, cela vous fera du vin rosé naturel.
Merci Étienne.